Mon nom est Mathieu Fortin. Alors, c'est ça fait à peu près 7 ans qu'on vient ici à l'église. Quand on est arrivé, on n'était que 3. Et maintenant, on est une grande tribu. On est 7. On a eu 2 adoptions là-dedans, puis 2 enfants bio. Alors, on est bien content d'être parmi vous. Oui, madame, bio, sans OGM. Alors, il me fait un grand plaisir d'avoir ce privilège de partager l'Évangile avec vous, de vous partager la parole de Dieu. En fait, le prémisse de la Bible est qu'il y a une différence entre un cœur moralement contraint et un cœur surnaturellement transformé. Il y a une différence entre contrôler, réprimer, étouffer l'envie, l'égocentrisme, les désirs du cœur naturel avec la volonté humaine. En d'autres mots, changer par ses propres forces versus voir notre cœur transformé d'une manière soutenue à travers la puissance du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, on trouve une liste des caractéristiques d'un cœur transformé. Et j'ai nommé le fruit de l'Esprit. La joie, la paix, la patience, il y en a 8, donc il en reste 5 autres. Vous irez voir ça dans Galates chapitre 5. Puis, j'écoutais The Lutheran Hour en m'en venant ici ce matin. J'aime beaucoup écouter ça avant d'arriver à l'église. Puis il disait justement que le fruit de l'Esprit, c'est un cadeau de Dieu. Puis c'est donc bien vrai. Hey, c'est un cadeau. Quel plus merveilleux cadeau que la paix, la joie, la patience. Hey, ça serait pas magnifique si tout le monde aurait ça en eux. Vivrait en paix avec beaucoup de joie, de la patience, de la tempérance, de la fidélité, de la douceur. Ça serait pas merveilleux? Lorsqu'on habitait à Vancouver, notre église a invité un pasteur que vous connaissez peut-être, un pasteur qui a écrit beaucoup de livres, John Piper. Puis, on voyait que c'était pas prévu, là, mais il nous a juste comme rajouté ça un petit peu en ouvrant une parenthèse dans son sermon. Puis, il nous disait qu'il a réalisé qu'il est plus facile d'être joyeux, en paix et patient, et même surtout patient, lorsqu'on est reposé. Hein? C'est vrai? Puis là, il dit, pourtant, c'est le fruit de l'esprit et non le fruit du repos. La Bible dit que c'est le fruit de l'esprit. Il nous a partagé la réflexion suivante. Dieu ne dort jamais, mais nous, on dort beaucoup. On passe beaucoup de notre temps à dormir. Pensez à toutes les heures que vous allez passer à dormir pendant votre séjour sur la terre. La conclusion, nous ne sommes pas Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas passer trop longtemps sans dormir. Puis, c'est un combat contre la chair. On ne veut pas étouffer le Saint-Esprit. Et puis, on doit combattre. Puis, ça doit commencer par savoir qu'on n'est pas Dieu, puis qu'on doit se reposer. En d'autres mots, on peut, par nos actions, étouffer ce cadeau que Dieu nous donne. John Neufeld, notre pasteur à Vancouver, quand on a passé 3 ans et demi là-bas, et puis disait à la blague, « Le combat sur la chair termine quelques heures après notre mort, parce qu'il ne faut jamais faire confiance à la chair encore chaude. » J'aimerais regarder avec vous comment vaincre la chair. En particulier, comment obtenir la paix. Un des 8 quartiers, mais 8 quartiers, ça se dit pas, là, mais 8 morceaux, la paix, c'est un des 8 morceaux du fruit de l'esprit. Alors, évidemment, une fois que l'on est sauvé par grâce, non par notre propre mérite, une fois que on est sauvé, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et puis, ce qu'il fait, son œuvre en nous, c'est le fruit de l'Esprit. Excusez-moi. Et puis, alors, c'est pas de notre propre mérite. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est pas par notre propre mérite. C'est son Esprit qui habite en nous. Et il nous donne cette capacité-là d'être en paix, d'être joyeux, d'être patient, peu importe ce qui nous arrive. Comme maintenant, je viens de perdre ma place dans mon texte. C'est pas grave. Vous me pardonnez, alors tout est bon. On va aller dans la prière pour qu'il arrive, pour qu'on puisse bien continuer ce matin. Oui, mon Père, tu es le Dieu de la paix. Tu nous donnes une paix qui dépasse toute intelligence. Et tu veux pour nous cette paix. Tu veux qu'on soit un peuple tes enfants. Tu veux nous donner ce cadeau. Tu nous l'as donné à notre salut. Lorsque tu nous as sauvés, tu nous as donné le Saint-Esprit. Et puis, c'est accessible à cause que tu nous as sauvés. Et ce matin, bon Père, on veut prendre pleinement conscience de cet immense cadeau que tu nous as donné. Et on veut, bon Père, que tu nous aides à comprendre pleinement, complètement, comment avoir cette paix que tu veux nous donner. On aimerait remettre ce temps entre les mains de ton Fils Jésus, qu'il puisse être glorifié, qu'il puisse être honoré ce matin. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à tourner dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 4, et on va lire de 4 à 12. Là, j'ai oublié de partir mon chronomètre. J'espère que c'est... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire à quelle heure ça termine. À 20? À midi et 20? OK. À midi et 20? C'est bon. OK. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. L'opposé de la paix, mes chers frères et sœurs, c'est l'anxiété. Et puis, cette prédication de ce matin, je l'ai écrit pour moi en premier. Parce que moi, je suis une personne anxieuse. Alors, je me prêche à moi-même bien avant de vous prêcher à vous. Alors, l'opposé de la paix, c'est l'anxiété. C'est la peur. C'est une inquiétude débilitante. Au verset 6, il parle d'inquiétude. Et au verset 7, il solutionne l'inquiétude par la paix de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, verset 6. Au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Selon les commentaires, le mot ici utilisé, inquiété, n'est pas une inquiétude normale ou une petite inquiétude. Exemple, mon fils est pas trop bien, il y a peut-être un rhume qui s'en vient, j'espère que ça va bien aller à son examen de maths. Ce genre d'inquiétude-là. On parle pas de ça, là. On parle d'une grande inquiétude. C'est pas une inquiétude normale ou un souci bienveillant pour une personne ou quelque chose que l'on aime. On parle d'une inquiétude débilitante qui te ronge à l'intérieur, qui fait des ravages. Une inquiétude toxique qui t'empoisonne la vie. Alors, qu'est-ce que c'est cette paix? Paul nous dit que c'est deux choses. Alors, premièrement, un calme intérieur, un équilibre. Dans le verset 11 et le verset 12, il mentionne « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, au verset 12, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul est en train de nous dire qu'il est le même dans une situation ou une autre, c'est-à-dire content, équilibré. Il y a un calme intérieur, il y a une paix, peu importe la situation. Pensons un petit peu, Paul, dans quel contexte il écrit ça? Paul est en prison en ce moment, il écrit ça. Paul faisait face à la torture, faisait face à la mort. Puis, il écrit qu'il est content. Il est content dans toute situation. Paul doit être tough. Parce que moi, je vous garantis que j'aurais beaucoup de misère à être content dans sa situation. On adoptait au Vietnam il n'y a pas si longtemps. Et puis, quand on a commencé les procédures d'adoption, le dollar américain était pas mal au pair avec le dollar canadien. Puis, on devait remettre un chèque assez important en dollars américains. Et puis, l'agence d'adoption nous a dit, « On vous fait confiance, attendez, attendez même d'être revenu avant de nous l'envoyer. » Alors là, le dollar américain a commencé à augmenter et à augmenter. Et à tous les jours, plusieurs fois par jour, j'allais voir le taux de change canadien-américain. Et je me disais, ça ne peut plus continuer. Ça va redescendre. Ça se peut pas. Et puis non, ça continuait à augmenter. Ça continuait à augmenter. Alors là, j'ai négocié encore plus de temps avec l'agence d'adoption. Je me suis dit, donnez-moi encore un peu plus de temps. Le dollar américain est rendu tellement élevé. Alors, j'ai épuisé tout mon temps. Et puis là, l'agence d'adoption dit, là, on a pas mal atteint là, le maximum de temps. On doit avoir le chèque. Alors, pendant ce temps-là, à chaque fois que le dollar canadien perdait de la valeur versus le dollar américain, je remarquais qu'il y avait de plus en plus de cheveux dans le fond de la baignoire quand j'ai fini de prendre ma douche. L'anxiété augmentait. Et puis, Matthew Farley m'a dit un jour, il dit, « Toi, tu as un problème avec l'argent. » Il dit, « Le problème, c'est que tu aimes trop l'argent, tu ne veux pas la dépenser. » Il a raison. Il a raison. Alors, bon, on a été obligé d'envoyer le chèque. Ça a coûté 4 000 $ de plus que qu'est-ce que ça aurait coûté si on aurait envoyé le chèque au moment où on était supposé de l'envoyer. C'est 10 sous. Pour un gars comme moi, stressé, anxieux, qui aime pas dépenser son argent. En tout cas, c'est pas tout à fait les situations à Paul. C'est pas tout à fait la situation à Paul, là. Je vous l'accorde. Mais quel est le secret de Paul? Pour être content, peu importe la situation, qu'est-ce qui... Ça doit être génétique. Il doit être fait fort. Il doit avoir un grand talent. Au verset 11, j'ai appris. Paul dit, j'ai appris. Ça ne lui vient pas naturellement. À moi non plus. À vous, est-ce que ça vous vient naturellement? Non? Bon, mais je suis rassuré. Alors, qu'est-ce que c'est cette paix de Dieu? Paul nous dit que c'est l'absence de peur. Mais cette paix n'est pas seulement le fruit de l'absence de peur, mais c'est aussi la présence de quelque chose. C'est un sentiment d'être protégé, d'être gardé. Verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Garder. Garder, c'est un terme militaire. C'est un mot fort. Ça veut dire prendre des soldats puis entourer quelque chose avec des soldats. Entourer une ville, entourer une maison, garder. Alors, dans les temps bibliques, il n'y avait pas nécessairement des systèmes d'alarme ou des forces policières comme on a aujourd'hui. Les voleurs, les maraudeurs, les pilleurs, c'était un petit peu inquiétant. Alors imaginez avoir des soldats devant ta maison, puis derrière, puis de chaque côté, d'être gardé par des soldats, comment on pouvait bien dormir. C'est un peu ça l'image ici. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça soulève un concept intéressant. C'est pas mal différent des techniques anti-stress modernes. Tu vas dans n'importe quelle bibliothèque et tu prends n'importe quel volume, livre, sur trouver la paix intérieure, ou bien comme moi, ta compagnie peut-être va te payer une session de gestion de stress. Et puis, il va être question de techniques pour contrôler tes pensées, pour ne pas avoir de pensées négatives. Bannis les pensées qui te causent de l'anxiété. Quand tu es vraiment stressé, fais plus ce que tu aimes. Fais-en plus de ce que tu aimes. T'aimes ça prendre des marches, va prendre plus de marches. T'aimes ça aller au cinéma, va plus au cinéma. Parce que tu es stressé. Ça va te changer les idées. Excusez-moi. Bon, quand tu es vraiment stressé, fais ce que tu aimes. Change-toi les idées. Divertis-toi. Pense-y pas. Ou du moins, pense-y moins. Les enfants, y a-t-il pire source d'anxiété pour des parents? Il y a 3 semaines passées, j'ai passé 2 nuits à penser à mes enfants. J'ai pensé à leurs troubles d'apprentissage. Je me suis mis à imaginer des scénarios catastrophes pour le futur. Puis là, j'étais dans mon lit, puis je me répétais, tu peux rien changer. Là, c'est la nuit, dors. Pense-y pas. Pense-y pas. Bon, première technique de gestion du stress, ça n'a pas fonctionné. Pense-y pas, ça n'a pas marché. Bon, je sors à la deuxième technique. Change-toi les idées. Ah, il est 2h du matin. Qu'est-ce qu'on fait à 2h du matin? Ah, travailler. Je me lève, je m'habille, je vais dans mon bureau, je travaille. Hey, j'en ai fait du travail, j'étais fier de moi. Le lendemain matin, j'étais fatigué. Ah, épuisé. J'avais pas de paix, pas de joie, puis pas de patience. La base de la paix de Dieu n'est pas une absence de certaines pensées, mais une présence de Dieu lui-même. La paix chrétienne n'est pas de bannir certaines pensées négatives. Dans le fond, quand on arrête de penser, on n'est plus dans le monde réel. Les problèmes sont toujours là. Tu y penses peut-être plus. Tôt ou tard, il va falloir que tu y fasses face. La paix chrétienne est une puissance vivante qui triomphe sur les problèmes. Elle te soulève et te fait passer par-dessus ou même à travers des problèmes. Rappelez-vous que Paul parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. On peut se sentir comme enfant de Dieu gardé, peu importe la situation. Peu importe si c'est même pas intelligent de penser que ça va bien aller, parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Imaginez une grosse roche sur la plage, une grosse vague arrive, engloutit la roche, on ne la voit plus pendant de longues secondes. Et la vague s'en va, mais la roche reste là, inébranlable, devant la grande puissance de la vague. Paul est comme ça. Il est arrêté, battu, flagellé, mis en prison. Son bateau fait naufrage. Plusieurs en veulent à sa vie. Vague après vague, tous les vagues de la vie ne peuvent pas le briser. Il a trouvé un moyen de garder une paix intérieure. Voilà de quel type de paix qu'est la paix de Dieu. Une paix intérieure, un équilibre, un sentiment fort de sa présence et une conviction qui dépasse toute intelligence de sa protection. Une conviction de sa protection. Voilà qu'est-ce qu'est la paix de Dieu. Maintenant, comment développer cette paix? Ou comment combattre la chair? Parce que je vous le rappelle, si vous êtes sauvés par grâce, vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie, la paix, la patience. Il y en a 8. Les autres, vous regarderez. Alors voici 3 choses que j'ai retirées du texte. Pour combattre la chair, il faut penser, il faut remercier, il faut aimer. Un, penser. Remarquez au verset 8, Paul dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, c'est pas mal large. Ça pourrait être un innombrable de choses, tout ça. C'est très général. Les commentateurs bibliques expliquent que dans le corpus, dans le contexte des écrits de Paul, Paul est en train de parler de doctrine. C'est quoi les doctrines? Dieu, le péché, Jésus, le salut, le monde, la nature humaine, le plan de Dieu pour le monde et le plan de la rédemption. Il parle de choses, de ces choses-là. C'est ça les doctrines. Il faut penser aux doctrines. Vous n'êtes pas convaincu? Horatio Gates Spafford, c'est dur à dire. C'est lui qui a écrit le livre, l'hymne It is well with my soul. Là, j'oublie tout le temps le titre en français. Okay. Quel repos, merci. Tu étais là au premier service? Non? OK. Bon. Alors, quel repos? Alors, c'est un hymne que M. Spafford a composé. Et puis, M. Spafford, c'était un avocat de la région de Chicago. Au printemps 1871, M. Spafford a décidé d'investir la quasi-totalité de sa fortune dans l'immobilier. Alors, Chicago était en grande expansion en 1871, au printemps, et puis il y avait énormément de bâtiments qui se construisaient. Et lui, il a investi beaucoup de son argent dans un petit peu plus loin de Chicago, là, puis ils ont acheté plein de propriétés là. Et puis, en octobre de 1971, il y a eu un immense feu qui a tout ravagé. Il a perdu la quasi-totalité de sa fortune. Et puis, il n'y avait pas d'assurance. Dans ce temps-là, je pense que si ta maison passe au feu, là, tu n'appelais pas Desjardins pour réclamer. Là. 2 ans plus tard, en 1873, sa femme et ses 4 filles partent pour aller en Angleterre visiter de la famille. Et puis, il y a eu le plus gros tragédie nautique pré-Titanic. 226 morts. Alors, c'est 2 bateaux qui ont rentré en collision. Et puis, des 226 morts, 4 de ses filles sont parmi ceux qui sont morts. Alors, sa femme qui a été rescapée, amenée en Angleterre, lui texte le message suivant. Là, j'ai dit texte, hein, dans le fond, c'est télégraphe, le message suivant. Puis là, on paye à la lettre. Hein? Alors, on fait ce cours parce que c'est payé par lettre. Alors, elle texte 2 mots. Sauvé seul. Alors, M. Spafford prend un bateau, s'en va rejoindre sa femme pour la ramener à Chicago. Et puis là, il écrit, puis je l'ai traduit moi-même parce que j'ai trouvé des versions francophones, mais je trouvais qu'il manquait certains mots qui avaient de l'impact. Alors, bref, j'aimais mieux ma traduction. Je suis pas un bon traducteur, mais en tout cas. Quelle paix comme un fleuve m'attend sur mon chemin rempli de chagrin. Quel que soit mon sort, Tu m'as appris à dire c'est bien avec mon âme. Même si Satan se réjouit, même si l'épreuve surgit, j'ai l'assurance bénie que Christ a considéré ma situation impuissante et a versé son sang pour mon âme. C'est bien avec mon âme, c'est bien avec mon âme. Mon péché, oh, le bonheur de cette glorieuse vérité, mon péché, pas en partie, mais en totalité, est cloué sur la croix, et je n'ai pas à le supporter. Louez le Seigneur, oh mon âme. Si tu veux la paix, pense aux doctrines. Pense à qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a accompli pour toi, ton salut. C'est complètement différent de ce que tu vas trouver chez Chapters ou Renaud Bré. Là, c'est une petite joke à ma femme parce que quand elle veut la paix, là, elle dit, là, Mathieu, je m'en vais chez Chapters. Puis la bonne chose, c'est qu'elle revient jamais qu'un livre. Alors, à chaque fois, je lui dis, bon, t'as-tu trouvé un livre intéressant? Elle dit, oui. Ben, tu l'as pas acheté? Non. Alors, ça, c'est une bonne chose pour un gars qui aime pas dépenser son argent. Mais, elle va là-bas juste pour se détendre, après un café, une tisane chez Starbucks, puis elle... Chance que pas tous les clients sont comme Maud, parce qu'il y a Chapters, je serais faillite. Mais, voici ce que tu trouves pas dans ces livres-là. Tu es anxieux, stressé, tu veux relaxer. Pense à des grandes questions existentielles. Quel est le but de la vie? Pense à pourquoi es-tu sur la terre? Quelle est derrière les grandes motivations de ta vie? Tu viens d'où? Tu t'en vas où? Les humains devraient faire quoi avec leur temps? Jamais! Pensez-vous que vous allez trouver que ça va apporter un réconfort, ça va enlever un peu de stress à un fonctionnaire? Ah, c'est une joke. Mais au premier service, Alain m'a dit qu'il en connaissait deux fonctionnaires qui sont en burn-out en ce moment. Trop stressés. Ça existe. Mais pourquoi ça apporte pas de réconfort? Les livres d'aide pour la gestion de stress vont directement aux techniques. Ils ne font pas réfléchir sur les grandes questions existentielles. Ils préfèrent des techniques de relaxation. Un équilibre travail-repos. À tous les 6 mois, va à la plage, regarde les vagues, pense à rien. Des techniques pour éliminer les pensées négatives. Fais du tai chi, du yoga, de la course, de la boxe. Pourquoi? C'est sûr que ça peut aider. C'est toutes des choses qui peuvent aider, là, à évacuer certains stress. Mais dans le fond, les gros stress qui te rongent, qui sont toxiques, qui te rendent anxieux, c'est impuissant. Pourquoi? Si tu es le produit d'un accident cosmique, sans but, sans raison, de penser à des questions existentielles, c'est très déprimant. Il n'y a pas de bénéfice à penser à des questions existentielles quand tu es convaincu que tu es le fruit d'un accident cosmique. Puis que tu es ici sur Terre par hasard. C'est très déprimant. Ma belle-mère qui était ici récemment pour Pâques, puis est venue avec Amigo. C'est un site web parce qu'elle n'aime pas conduire, alors elle va sur Amigo, puis elle se trouve un lift, puis elle est venue à Gatineau. Puis elle a embarqué avec un missionnaire prophète à Pau. Elle m'a donné sa carte d'affaires. Puis, il avait même prédit qu'elle allait être née de nouveau entre 11h et midi dimanche de Pâques. On va voir si ça a fonctionné. Normand a très, très bien prêché. En passant, c'était extraordinaire. Alors, d'après moi, il y a des bonnes chances. Mais bref, on parlait justement de... Je parlais avec ma belle-mère parce qu'on venait d'entendre quelque chose à la radio sur l'origine, tout ça, de l'humanité, tout ça. Puis là, je lui expliquais que Dieu est en dehors du temps. Puis que là, il y a eu un début, mais Dieu n'a pas eu de début. Puis là, je lui parlais de tout ça, puis comme quoi que Dieu nous a créés. Puis elle dit, tu sais, on peut pas le savoir. On peut pas être sûr de rien. On est mieux de ne pas penser à ces choses-là. C'est ça qu'elle m'a dit. Ça, c'était avant le dimanche de Pâques. Ça, c'était le samedi avant Pâques. On va voir la prochaine fois qu'elle vient, ça a changé son discours. Mais ils obtiennent leur paix en ne pensant pas. Si tu es le fruit d'un accident cosmique, ben pense-y pas, parce que ça va te troubler, ça va te stresser, ça va te rendre anxieux. Si tu es déjà stressé et anxieux, t'aideras pas. Faut pas penser aux doctrines. Il y a ceux qui se tournent vers la bouteille pour trouver la paix. Boire de l'alcool. On fait juste s'assommer. On n'a pas une paix durable. On arrête d'y penser pendant qu'on est sous comme une botte. Mais quand on revient à la réalité, nos problèmes sont encore là, puis deux fois pire. Il y a Stromae qui chante un petit peu là-dessus. Puis, je pense que Stromae, dans son style, il fait comme ressortir l'absurdité de ça, de ce qu'on fait comme société. Quand on a des stress, des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Alors on danse. Qui dit étude, dit travail. Qui dit taf, dit des tunes. Ça, je ne comprends pas. Je demanderai à Michael Maréchal de m'expliquer ça plus tard. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créancier. Qui dit dette, dit huissier. Et lui dit aussi de la M. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours, dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 9 fois, là, alors on danse. La paix chrétienne, c'est le contraire. On obtient notre paix en pensant. En pensant à quoi? La doctrine. La doctrine chrétienne. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Originalement, il nous a créé un monde parfait. Il n'y avait pas de tristesse, pas de maladie, pas de stress, pas d'anxiété, pas de mort. Il voulait vivre avec nous dans ce paradis et on le sait, le péché est venu tout gâcher. L'humanité s'est détournée de Dieu et notre monde est complètement brisé. Mais il nous a envoyé Jésus, son Fils, et il nous prépare un nouveau ciel et des nouvelles terres. On a une grande valeur à ses yeux. Il ne nous abandonne pas et notre futur est assuré. Donc, si tu es chrétien et tu crois toute cette merveilleuse doctrine et tu n'es pas en paix, pense à ce qui est vrai, à tout ce qui est honorable, à tout ce qui est juste. La paix chrétienne, c'est d'être... Oups, mes feuilles sont mélangées. C'est d'être au courant, c'est d'être éveillé. Ce n'est pas comme la paix du monde qui assomme et qui fait abstraction de la réalité. La deuxième chose pour combattre la chair, c'est remercier. Là, vous dites, OK, remercier, avoir la paix. Mathieu, je ne comprends pas, je ne vois pas le lien. Paul nous dit de ne pas nous inquiéter. Et puis, il dit au verset 6, ben on pourrait lui dire, OK, Paul, on ne s'inquiète pas, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Alors, Paul, il dit, ne t'inquiète pas de rien, mais en toute chose, fais connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Puis même les inconvertis, quand ils ont des gros problèmes, là, ils se mettent à prier. Là. Hein, ça, on est comme programmé pour le faire. Là. On prie, on a des supplications. Et puis là, c'est là que ça peut être un petit peu spécial avec des actions de grâce. Puis là, peut-être que vous dites, on remercie en même temps qu'on fait la demande. Pourquoi? Habituellement, on remercie une fois qu'on a reçu ce qu'on a demandé. Mais c'est pas ça que Paul y dit. Tu le remercies. Tu remercies Dieu en même temps que tu fais la demande. Peut-être vous dites, ouais, mais moi, je veux voir avant si Dieu va exaucer ma prière avant de commencer à le remercier. Ça me semble que c'est logique. Il faut réaliser que tout est entre ses mains. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses, même les choses que Dieu est, même les choses qu'il n'a pas mises dans ce monde, il va les transformer. Ce qui nous arrive, Dieu va le tricoter, le transformer pour notre bien et pour sa gloire. Si tu crois ça, tu n'as pas de crainte à avoir. Le jour où l'on a crucifié Jésus, tous ses amis n'en revenaient pas. Cet homme-là, il a guéri des malades. Cet homme-là, il faisait juste du bien. Cet homme-là, il a fait tellement de bien, il a tellement changé de vie, il a tellement fait de bonnes choses. Puis en plus, là, il l'accuse faussement. Puis là, c'est un complot. Puis là, il fabrique des fausses accusations. Ses amis ne comprenaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Comment Dieu va faire du bien avec ça? Si on leur a dit, non, non, inquiétez-vous pas, Dieu transforme tout en bien. Hein, il y avait pas encore Romains 8, 28. Il n'y avait pas encore ça. C'est bien après la crucifixion qui est arrivée, Romains 8, 28. Là, ils auraient peut-être compris, on aurait pu leur dire ça. Non, ils ne comprenaient pas. Mais en ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient tout simplement pas à comprendre. Mais c'était la plus grande œuvre pour la rédemption du monde jamais faite. C'est le meilleur exemple, le plus grandiose des choses que Dieu accomplit. On ne comprend pas. Même les choses les plus terribles qui nous arrivent sont pour notre bien. Sont pour notre bien et pour sa gloire. Quand on a adopté Honduras, notre première adoption, les choses, ça tardait, ça avançait pas. Finalement, il y a des gens qui ont appliqué en même temps que nous, puis eux autres qui ont réussi à aller au Honduras pour adopter. Puis nous autres, on pouvait pas. Puis là, on priait, puis on dit, voyons donc, Seigneur, nous autres, on est même chrétiens, puis eux autres sont même pas chrétiens, puis regarde, eux autres, ils s'en vont au Honduras. Nous autres, non, on n'a même pas. Puis là, ça tarde, puis là, nous autres, on veut l'adopter, cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, rendu là-bas, l'autre couple, il était pris dans le... Il y a eu une grève, ils ont été pris là, mais ils étaient là avec leurs deux enfants. Puis ils ont eu du bon temps, puis tout était bien. Mais nous, notre plan, c'était pas d'y aller là avec deux enfants. Là. Nous, notre plan, c'était d'y aller juste Maud puis moi, dépenser le moins de sous possible, parce que moi, j'aime pas ça, dépenser de l'argent. Puis là, on aurait été pognés là pendant des semaines et des semaines à faire de l'anxiété, à se ronger les ongles jusqu'à l'os. Ah, ça. Puis Dieu le savait. Regarde, les papiers, ça avançait pas. Il y a eu des délais, mais on a passé à la grève. Puis après ça, ben, on est allé, puis tout est allé bien. Mais on ne savait pas que ça allait bien aller. Pendant tout le long du temps qu'on était là-bas, on se rongeait les ongles, puis on avait peur, puis on était anxieux. Mais tout a bien été. Puis il n'y avait pas de crainte à avoir. Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand tu fais une demande à Dieu, Dieu te donne toujours ce que tu lui aurais demandé si tu sais tout ce que lui sait. Voulez-vous que je répète ça? Okay. Quand tu fais une demande à Dieu, Dieu te donne toujours ce que tu lui aurais demandé si tu connaîtrais tout ce que lui connaît. En espagnol? Non. Alors, Dieu nous dit dans sa parole que si nous, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison lui est capable de nous donner des bonnes choses? Alors, quand on lui demande quelque chose, on peut le remercier tout de suite. On sait que ça va être bon. On sait que ça va être bien. Puis, même si on ne comprend pas tout dans maintenant, on va le comprendre plus tard. Puis tout va être pour notre bien, puis tout va être pour sa gloire. Bon. Aimer, faut que j'avance. Alors, dans le fond, si tu crois ça, tu vas être en paix. Et si tu ne le crois pas, tu ne seras pas en paix. OK? Alors, au troisième point, aimer. Alors, au verset 8, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il est question ici d'attrait, d'affection, d'attachement, d'amour. Tout ce qui est aimable. Qu'est-ce qu'on loue? On loue ce qu'on aime. On louange ce qu'on aime. À quoi pensez-vous le plus? C'est à ce que vous aimez le plus. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu ne peux pas être complètement en paix. Si tu aimes tes enfants plus que tout, ils pourraient te précéder dans l'éternité. Ils pourraient te décevoir de mille manières. Puis, quand tu vas être au foyer de petits vieux, ils ne pourraient même pas venir te visiter ou te visiter très peu. Ça, c'est une blague. On ne dit pas foyer de petits vieux, on dit foyer de personnes âgées. Alors, si tu aimes ton travail plus que tout, tu pourrais être coupé par une restructuration. Tu pourrais plus avoir la santé pour faire ton travail. Tu pourrais changer de patron, de superviseur, puis ça pourrait devenir un environnement très désagréable de travailler comme ça. Tout est temporaire. Tout est fragile. Tout est sujet à changer. Sauf le Dieu immuable, qui ne change pas. Paul dit que la mort lui est un gain. Pourquoi la mort lui donne plus de Dieu? Puis c'est Dieu qu'il aime le plus par-dessus tout. Dieu lui-même doit être l'objet de toute notre affection et de toute notre dévotion. Et voici pourquoi. Selon l'évangile de Marc et de Matthieu, quand Jésus est mort à la croix, il a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, c'est très différent de pas mal tous les autres qui mouraient sur une croix. Tu meurs sur la croix en perdant conscience. Tu meurs avec des longues périodes d'inconscience, avec quelques petites brides de conscience. Tu meurs pas en criant. Mais Jésus, lui, a perdu toute sa paix. Il était en anxiété, il était vraiment dans un moment de tourment. Pourquoi? Pourquoi Jésus a eu toute cette anxiété-là, toute cette tourmente? Pour que nous, on puisse avoir la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien, mes amis. Alors ne vous inquiétez de rien. Merci.